Mesdames, messieurs, bonjour. Heureux de vous retrouver sur les antennes du poste national de la CRTV. Bienvenue à Politude. ...2024 tire à sa fin et les regards de beaucoup de Camerounais sont désormais tournés vers l'élection présidentielle de 2025. Les grandes indications de cette année très scrutées au Cameroun seront sans doute données le 31 décembre prochain par le président de la République lors de son traditionnel message à la nation. En attendant et conformément au calendrier, le mandat actuel de 7 ans du numéro 1 camerounais s'achève le 6 novembre 2025... date de la dernière prestation de serment de Paul Biya au palais de l'Assemblée nationale. Le 6 novembre, une date historique au Cameroun, c'est le jour anniversaire de l'accession du président Paul Biya à la magistrature suprême en 1982. 42 ans plus tard, le promoteur du renouveau est toujours à la manette pour conduire le Cameroun vers son émergence. Les Camerounais de tous bords ont encore célébré le chef de l'État le 6 novembre dernier dans les 10 régions du pays et à l'étranger, et particulièrement au RDPC, le parti au pouvoir. Quels enseignements dégagés de la mobilisation observée le 6 novembre 2024, que dire de la méthode Biya qui, 42 ans plus tard, permet toujours au Cameroun d'être un pays respecté dans le monde? Que dire de la méthode Biya qui fait du chef de l'État camerounais l'un des leaders les plus écoutés dans le monde? Et à quoi s'attendre avec la présidentielle de 2025? Des préoccupations au cœur de cette édition de Politude. Notre invité ce samedi, c'est le professeur Gérard-Marie Messina. Il est sémiopolitiste, enseignant à l'Université de Yaoundé 1. C'est le directeur exécutif du laboratoire de sémiologie politique. Professeur Gérard-Marie Messina, bonjour et bienvenue à Politude.
Constant Zé, bonjour. Merci de m'inviter.
D'abord un mot sur l'actualité avec l'élection du président Donald Trump qui fait donc son comeback à la Maison-Blanche comme 47e président des États-Unis. C'est une surprise ou non pour vous?
Pour moi, véritablement, il ne s'agirait pas d'une surprise à proprement parler, dans ce sens que le monde aujourd'hui a besoin des figures centrales, fédératrices d'un certain nombre de vertus cardinales. Vous voyez le profil technique, le profil psychologique, le profil spirituel, en quelque sorte, de Donald Trump s'oppose diamétralement à celui de Kamala Harris. Donc autour de Donald Trump, ce sont des gens qui revendiquent un certain nombre de valeurs cardinales, un certain nombre de valeurs fondamentales. Le constat à faire aujourd'hui est que le capitalisme outrancier qui avait été présenté comme la solution ultime aux misères des humains montre les preuves de son échec. En des termes simples, on peut bien mobiliser toutes les ressources matérielles dont on a besoin sans avoir la paix, sans avoir la stabilité, sans avoir l'épanouissement dont on a besoin. Or, le discours que tient Donald Trump, au-delà de l'apparence populiste, donne de l'espoir à ceux qui aujourd'hui estiment que l'humain devrait rester au centre du management de l'univers. Et pour que l'humain reste au centre du management de l'univers, on devrait continuer à établir la distinction nécessaire entre l'homme et la femme, entre l'enfant et l'adulte, entre l'humain et l'animal. Et le discours justement que tient Trump, c'est un discours qui vend de l'espoir. Et il est revenu comme un nouveau produit marketing sur le marché politique américain et sur le marché politique international.
Et que peuvent attendre alors l'Afrique et le Cameroun en particulier de ce retour de Donald Trump aux affaires?
Il faut le dire, en principe, nous avons tendance à négocier une certaine filiation ou une affiliation directe aux grandes puissances. Cela n'est pas d'un intérêt réellement pertinent. Mais le plus intéressant, si je peux le dire ainsi, c'est que, en réalité, Donald Trump lui-même représente une sorte de régulateur de la tension politique internationale. Lorsque nous regardons les foyers de guerre, son poids politique, ses orientations stratégiques sont de nature à mettre suffisamment de bémols au niveau de l'intensification de l'action belliqueuse et belligérante dans les différents foyers de guerre. Si nous prenons le conflit russo-ukrainien, nous ne sommes ni russes ni ukrainiens au Cameroun, mais les conséquences, les effets directs et indirects liés à la mobilité des biens, tout cela a eu un impact direct sur l'équilibre, la stabilité économique des populations camerounaises. Lorsque vous allez au marché pour acheter les beignets, et la raison qu'on vous présente, c'est la guerre russo-ukrainienne. Et avec beaucoup de pertinence, parce qu'on vous dira que l'Ukraine est très bien impliquée dans la véhiculation de la farine, du blé, par exemple. Et donc, on comprendra que l'atténuation, justement, et la diminution, l'étouffement d'un certain nombre de foyers de guerre permettrait le retour à la stabilité. Il y a beaucoup d'espoir, peut-être pas directement en termes d'amitié avec Donald Trump, on connaît le personnage. Et puis, est-ce que c'est même intéressant? Y a-t-il réellement amitié entre les États-nations? Que non, seuls les intérêts comptent. Et il est question d'avoir une lecture équilibrée, une lecture suffisamment lucide pour se rendre à l'évidence que, en positionnant les États-Unis, selon lui, America First, ce positionnement permet qu'il se concentre sur son pays et que la concentration sur son pays va entraîner justement la diminution des foyers de guerre et le reformatage des relations internationales avec les autres pays, non seulement de l'Occident, mais aussi, j'allais dire, et par ricochet, ceux d'Afrique. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il y a beaucoup d'espoir, parce que les Américains ont opéré un choix qui expliquait les conditions dans lesquelles ils évoluaient. Ils faisaient face à beaucoup de défis économiques, le chômage a grimpé de manière exponentielle, et en même temps, ce qu'on vend, c'est une tendance droit de l'homiste qui va vous proposer le changement de sexe, le transgenderisme, et puis tout cela. Et au fond, on se rend compte que le discours qu'il a tenu, c'est-à-dire la lumière contre les ténèbres, selon la mythologie fondamentale, on comprendra qu'il se positionne comme un entrepreneur du cosmos, donc un pacificateur, un vendeur de paix, un marketeur de la stabilité face aux promoteurs des ténèbres, à ceux qui initient le retour systématique au chaos par la confusion des genres, par la déstabilisation de l'économie et tout ce qui serait de nature à empêcher le monde de vivre la stabilité souhaitée.
Merci, professeur Jérémy-Marie Messina. Nous allons observer une petite pause pour écouter l'actualité politique de la semaine.
Politude.
Politude. Le journal de la politique.
Elle nous est déroulée par Daniel Sopo. Bonjour Daniel.
Bonjour Constant. Routes, énergie, barrages, hydroélectriques, principaux domaines visés par des investisseurs italiens à mission de diversification de leur présence au Cameroun. Délégation reçue à Yaoundé par le premier ministre chef de gouvernement Joseph John Nkouté. C'était en présence de l'ambassadeur d'Italie au Cameroun. Le 6 novembre, le Cameroun a célébré les 42 ans de magistrature suprême du président Paul Biya. Au-delà des réjouissances, il s'agit d'un devoir de mémoire pour toute la communauté nationale appelée à consolider les valeurs de paix et d'unité autour de l'institution qu'est le président de la République. Le Cameroun, sous le magistère du président Paul Biya, est un pays où la liberté d'expression, la liberté d'association et la démocratie sont une réalité. Malheureusement, beaucoup utilisent aujourd'hui ces acquis du renouveau pour semer les graines de division au sein de la société camerounaise, d'où la montée des discours de haine et de toutes sortes de comportements fanatiques. Des attitudes que condamnait déjà le chef de l'État pendant les années 90, dites de braise. Paul, grand bâtisseur pour un Cameroun uni, fort et résilient, c'est le titre du documentaire diffusé en grande première à Yaoundé, au palais des congrès de Yaoundé, courant la semaine. Ce film retrace les réalisations majeures du président de la République, Paul Biya, en 42 ans à tête du pays, sur plan des infrastructures scolaires, universitaire, sanitaire et routière, sans oublier le pas de géant accompli dans le vaste chantier de la décentralisation. C'était au cours de la soirée de gala pour clôturer la célébration de l'an 42 de l'accession du président Paul Biya à la magistrature suprême du Cameroun. Une soirée qui a vu la présence du premier ministre chef du gouvernement Joseph John Nkouté et présidée par le secrétaire général du comité central du RDPC, Jean Kouété. La place d'armes du centre d'instruction de la base Bir à Salak dans l'arrondissement de Maroua 1er, région de l'extrême nord, a servi de cadre à la clôture de la 4e session des brevets d'armes numéro 1 et 2, spécialité infanterie commando. Dans son discours de circonstance au lieutenant-colonel Tapali Oumarou, commandant le centre d'instruction commando des Bir de Salak, a exhorté les 588 lauréats à capitaliser leurs nouvelles aptitudes pour assurer avec professionnalisme la sécurisation des personnes et des biens. La cérémonie était présidée par le général de division Philippe Mpaye, commandant des écoles et centres d'instruction inter-armées. C'est avec cette note qu'on sent que nous mettons un terme à l'actualité politique de cette semaine. Merci de l'avoir suivi. À samedi prochain.
Merci Daniel et à samedi prochain.
Politude, le débat politique du samedi midi sur le poste national de la CRTV.
Merci d'être scotché sur le poste national de la CRTV. Vous écoutez Politude. Nous recevons ce samedi le professeur Gérard-Marie Messina, sémiopolitiste. Professeur, le 42e anniversaire de Paul Biya comme président de la République du Cameroun a fait l'objet le 6 novembre dernier d'une grande mobilisation. Est-ce que vous comprenez les Camerounais de tous bords politiques qui ont célébré l'homme du renouveau?
Il conviendrait de relever que, en réalité, toutes les sociétés ont besoin des figures majeures. Et cette figure majeure est la représentation, le symbole de concentration de l'espoir. Juste une petite illustration. Vous savez, les Saintes Écritures, la Bible notamment, montrent clairement qu'à un moment donné, le peuple d'Israël était directement connecté à Dieu pendant que les peuples alentour avaient à leur tête des rois, des chefs de diverses natures. Le peuple d'Israël a sollicité de Dieu la nomination ou la désignation de quelqu'un qui allait exactement jouer le même rôle. Dieu s'en est offusqué, mais il a cru devoir acquiescer à la demande qui lui avait été adressée par le peuple d'Israël. Les peuples anciens, comme ceux de nos jours, ont besoin des leaders lucides, responsables et qui représenteraient une sorte de lieu de concentration des espoirs. Et du coup, la mobilisation autour du président se justifierait par cette démarche qui veut qu'aujourd'hui, dans un monde de plus en plus confus, où ceux qui sont supposés être porteurs de la parole de fidélité, de lucidité et de la vision de la cohérence, quand cela de plus en plus ne répondent plus, il y a lieu de reconnaître que la démarche du président Biya, son statut, sa stature politique et sociale sont de nature à entraîner cette forte mobilisation, non seulement au niveau de ceux qui sont du parti dont il est le chef, mais aussi de la part de ceux qui se revendiquent de la même vision et qui pensent pouvoir rejoindre justement le modèle de construction de société qu'il a cru devoir mettre en place et qu'il vend au peuple qui est celui du Cameroun.
Le 6 novembre 2024, le RDPC a naturellement fait de ce jour anniversaire un jour particulier. C'était le dernier de l'actuel mandat confié par le peuple au chef de l'État. Est-ce que c'était une motivation supplémentaire pour les uns et les autres de célébrer ce jour historique pour le Cameroun?
Bien sûr que oui, dans la mesure où, au-delà de la dimension purement folklorique, la fête a une fonction rituelique. Et le rituel ici rentre dans la construction des mythes. Et les mythes sont des éléments de référence dans les politiques d'imagination au sein des sociétés humaines. Le mythe permet de jeter un regard rétrospectif pour examiner le passé et voir d'où, justement, le Cameroun, de manière générale, part. Et avec, justement, le 6 novembre 1982 comme un repère chronologique majeur dans l'histoire du Cameroun, et l'évaluation ou l'examen de ce repère chronologique ne saurait se négocier en dehors de la figure du président Paul Biya, qui continue de porter et de conduire le Cameroun que ce peuple a cru devoir lui confier. Et donc, la fête est un moment de rencontre d'intérêt. La fête est un moment d'évaluation, La fête est un moment également d'exorcisation d'un certain nombre de démons qui pourraient empêcher l'évolution sereine, forte, cohérente justement, d'une organisation comme le Rassemblement démocratique du peuple camerounais et qui, dans le régime justement, joue un rôle extrêmement clé en termes de conception des politiques économiques, des politiques éducatives, des politiques culturelles et de tout ce qui pourrait contribuer à la stabilité du pays. Donc la commémoration cette année avait une dimension beaucoup plus forte, beaucoup plus puissante, parce que c'est aussi le bilan d'un mandat. Et c'est le bilan d'un mandat qui marque aussi l'extrême maturité d'un homme, d'un peuple et d'une organisation, j'allais dire d'un État, parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, tout le crédit va aussi, non seulement au président, mais aussi au peuple camerounais. Les États responsables, qui ne sont pas des États voyous, ont besoin de figures centrales, conductrices, qui charrient l'espoir, qui charrient la stabilité. Donc, cette stabilité, oui, c'est vrai, il y a un certain nombre de défis à relever que nous pouvons mettre en évidence, mais cette stabilité fait du Cameroun un État crédible aux yeux, non seulement du peuple lui-même, mais au niveau de l'opinion publique internationale. Le Cameroun n'est pas un petit pays rempli de petits coups d'État où un matin vous vous levez, on vous annonce voilà la prise du pouvoir par tel ou tel. Ça aussi, ça participe de la construction d'une identité collective mémorable.
Vous avez parlé de fêtes comme moment de bilan, d'évaluation. En plus de la stabilité à laquelle vous avez fait allusion tout à l'heure, de quoi peut être fier le renouveau 42 ans plus tard?
Sans prétention, ma posture est une posture avantageuse parce que elle n'est pas militantiste ni militante. C'est une posture d'expert, d'évaluateur et de témoin aussi. Et je peux parler d'un domaine que je peux avoir la prétention de connaître un tout petit peu. Pas comme ceux qui ont la responsabilité de porter ce secteur-là. Je veux parler de l'enseignement supérieur en rapport avec la conception générale des politiques de développement du pays. Vous savez, en général, lorsqu'on adresse la problématique de la décentralisation, on l'aperçoit du point de vue uniquement de la décentralisation territoriale, qui correspond justement à la conception, à l'élaboration et à la mise en œuvre des collectivités territoriales décentralisées et avec la grande question de la mobilisation et du transfert des ressources et des compétences. Je vous parlerai de la décentralisation technique et fonctionnelle. Il m'arrive, dans des milieux beaucoup plus restreints, même entre amis, de témoigner et de dire que s'il m'était demandé de faire personnellement le bilan du président Biya, je ne prendrais que cet aspect-là, c'est-à-dire la décentralisation technique ou fonctionnelle au niveau de l'enseignement supérieur. Constance est, j'ai le bac en 92, donc 92-93, nous entrons à l'université et la réforme du 19 janvier 1993 est une sorte de terreur. C'est une réforme de terreur pour les petits étudiants que nous sommes.
Pourquoi ?
Parce que tout de suite, nous avions espoir qu'on allait restaurer la bourse aux aînés qui étaient déjà en difficulté quand nous étions en première au lycée. Et on ne va pas dans le sens de la restauration de la bourse, mais on va dans le sens de la prise d'une réforme qui annonce le paiement des droits universitaires. Alors c'était vraiment catastrophique.
50 000 francs.
50 000 francs. Bon, c'était des pleurs et des cris d'orfraie un peu partout. Mais la vérité, c'est que au bout d'un certain temps, étudiants encore, nous avions constaté les changements positifs nécessaires. Parce que l'université de Yaoundé de l'époque était une sorte de tombeau de bacheliers. Parce que justement, les élèves les plus brillants qui y allaient, pour la plupart, se perdaient. Mais cette réforme, qui est une sorte de décentralisation avant la décentralisation que nous connaissons, c'est-à-dire celle territoriale, a essentiellement travaillé au développement du pays. Je dis développement, je sais de quoi je parle, parce que aujourd'hui on est à 11 universités
d'État.
Je ne compte pas les universités régionales, dont un partenariat avec le Congo, université inter-État et puis le reste. Et puis la qualité même aussi des réformes implémentées au sein de ces différents établissements. La décentralisation est réelle à ces niveaux parce que dans chaque région où on a implanté une université, il y a un développement qui a suivi tout de suite. Il y a création d'une ville. J'ai eu des témoignages des aînés. Bouya, c'était un petit champ de patates et puis tout ça là. Mais avec l'université, elle est au sud-est aujourd'hui. Je ne vous parlerai pas de Tchang, je ne parlerai pas d'Ngaoundéré. Donc systématiquement, s'il m'était donné de procéder à ce bilan-là, qu'on ne perçoit pas beaucoup en réalité.
Mais qui est visible.
Qui est très très visible parce que la conception technique était aussi fantastique parce que plus tard, les officiels du ministère de l'enseignement supérieur mettront en place une autre réforme. Hein. Donc, le programme d'appui à la composante technologique et professionnelle, le PRO-ACTV. Là, constant, je vous l'assure, c'est une vingtaine d'années encore, aussi avant la réforme du budget programme qui va entraîner justement la conception et l'élaboration des programmes pour évoluer du budget des moyens au budget programme. C'est ce programme PRO-ACTP qui a activé l'implémentation, la construction des différentes universités en termes d'infrastructures, en termes même de recrutement du personnel et naturellement le développement infrastructurel, le développement de ressources humaines. Tout cela a contribué à massifier une main-d'œuvre technique très, très sophistiquée. Et aujourd'hui, lorsque vous voyez les mouvements, il faudrait que j'en parle aussi, c'est-à-dire des sorties en termes d'immigration choisie. Il y a des gens qui s'en plaignent. Ils parlent de la fuite. Non, c'est une conception de l'État camerounais, dont la fonction publique ne saurait absorber entièrement les produits formés. Mais ces produits étaient formés de sorte que les investissements directs étrangers qui viendraient soient absorbés, et c'est ce qui s'est fait, et qu'en termes de choix, les produits formés aient la possibilité d'aller travailler ailleurs. Nous faisons face à un certain nombre de difficultés sur le plan financier. Mais vous voyez la transformation et des villes du Cameroun, au-delà de l'action de l'État, c'est-à-dire c'est des initiatives privées, ce sont ces produits du Cameroun et qui se déploient ailleurs et qui rapatrient des fonds pour justement contribuer au développement du pays. Donc il y a lieu de fêter, il y a lieu de procéder aussi à ces bilans qui permettraient de faire les réajustements nécessaires pour que justement les différentes réformes majeures entreprises soient de nature à produire l'impact attendu et qui correspond justement à la vision du chef de l'État en termes de libéralisme communautaire.
En d'autres termes, pour vous, les enseignants, les médecins, par exemple, qui choisissent d'aller s'installer ailleurs, à l'étranger, ce n'est pas une fuite de cerveau pour discréditer un peu ce qui s'est fait au Cameroun. Au contraire.
Ce n'est pas la fuite de cerveau. Est-ce que cela ne comprenne pas ce qui se passe? Moi, je parle en tant que témoin de l'histoire. Et avant, justement, d'être recruté à l'université, j'ai travaillé au ministère de l'enseignement supérieur comme cadre. Constance, et vous savez, les étudiants camerounais allaient en Afrique de l'Ouest et Niger-Guinée pour des formations en médecine. Il y a eu un événement. Quelques Camerounais voulaient prendre part à la fête d'un camarade. Ils se sont noyés. Donc, il y a des réflexions qui ont été menées. J'ai eu le privilège d'être là où ça s'est décidé. On a densifié et on a diversifié la formation dans ce domaine spécifique-là. Parce qu'avant, vous le savez, l'OCUS, on prenait juste le nombre qu'on pouvait insérer dans la fonction publique. On est arrivé à la conclusion qu'on pouvait massifier la formation sans que nécessairement on les recrute dans la fonction publique. Et effectivement, c'est ce qui a été fait. Et lorsque vous formez très bien quelqu'un dont les études ont été financées à la fois et par l'État et par ses parents, la suite, c'est qu'il trouve où travailler. Et donc, la fuite des cerveaux, non. C'est-à-dire que ceux-là, ils partent, ils braconnent, entre guillemets. C'est une sorte de braconnage technique. C'est une sorte de braconnage diplomatique même, parce que c'est des produits que le Cameroun a formés. Et ils reviennent, soit pour, après avoir mobilisé les ressources nécessaires, créer des entreprises, soit ils investissent directement à partir de là où ils continuent à travailler. Donc il n'y a pas plus de cerveau. Ces actions participent justement des politiques de développement des ressources humaines au niveau de l'enseignement supérieur qui ont été clairement bien pensées.
S'il y a des chantiers dont le président de la République devrait veiller à l'accélération des travaux avant la fin de son mandat, ce seraient lesquels, selon vous?
Il n'y a que les réformes les plus récentes, pour rester dans le domaine que je connais le plus, montrent un besoin d'adaptation ou de prise en compte de l'identité économique des différentes régions dans le processus général de production des biens et services au niveau du Cameroun. En des termes clairs, au sud, on voit l'école qui a été créée, dont les problématiques tournent autour de l'ingénierie maritime, parce que justement, on a Kribi. En fait, le développement des États est fonction de ce dont ils disposent en termes de ressources naturelles. C'est ce que les pays d'Asie font. Et le modèle a été copié dans l'Occident, c'est-à-dire les vieilles industries occidentales, ce que Adam Smith appelle la dotation en facteurs naturels. Et aujourd'hui, on voit ce qui se passe. Au niveau de l'université de Berthois, on regarde les questions liées aux mines et les questions liées au bois. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, il est paradoxal et incongru que l'Est, qui dispose d'un peu plus de 100 000 km carrés dans la superficie générale, soit regardé comme une espèce de parent pauvre du point de vue économique et dont on tire l'essentiel des ressources. Donc, en mettant en place ce type de réforme, c'est une bonne vision qui demande une certaine intensification et qui permettrait justement que les populations riveraines bénéficient de ce que ces régions produisent et qu'on ne regarde plus une affectation, je ne sais pas, à Salapumbe ou à, je sais pas, ou à Mulvoudaï vers le nord comme une punition. C'est-à-dire que chaque région capitalise ce dont elle dispose et qu'on entre dans une sorte de compétitivité entre les régions sur la base justement de la capacité des produits formés dans les universités camerounaises et même d'ailleurs à transformer ce dont dispose le pays et qui contribuerait au renforcement et du PIB et de tout ce que nous pouvons imaginer. Pour que justement on ne ressente pas comme une sorte de césure entre justement cette grande mobilisation au sommet autour du président de la République et une certaine couche de la population qui se considérerait comme une bande de laissés pour compte qui n'ont pas droit justement à ce festin. Vous savez, j'aime illustrer avec la sémiologie politique, c'est fondamentalement la mythologie. Hein. Zeus, lorsqu'il a pacifié le monde, dont le dieu champion de l'Olympe, a procédé à une sorte de partage du pouvoir. Donc chaque dieu avait une fonction spéciale pour ne parler que de Poséidon à qui il a donné les mers. C'est au même Poséidon que Zeus a chargé de construire une triple muraille d'airain qui devait séparer justement les cieux, c'est-à-dire l'Olympe, de la terre, l'espace des mortels. Et la construction de la triple muraille d'airain visait un objectif. Il ne fallait pas que les misères des mortels, c'est-à-dire des humains, montent, traversent et touchent les dieux de l'Olympe. Et lorsque nous regardons le fonctionnement du monde aujourd'hui, je suis en train de théoriser sur ce que j'appelle l'olympisme politique. En fait, la bataille est permanente dans les anciennes colonies et les anciens colonisateurs, c'est ce type de rapport. Et en interne, la menace aussi qu'on soit dans le même type de rapport. Mais je crois que la lucidité du président de la République lui permettra, en termes de postulation de nouvel avenir, de prendre en compte l'émergence de la jeunesse, comme il a commencé à le faire, pour que justement, et les jeunes, et les femmes, et toutes les catégories défavorisées, que les droits de l'homme reconnaissent, les vrais, pas ceux qui font dans la transformation ou le changement de sexe, pour que cela soit pris en compte et que l'équilibre souhaité le soit entièrement et réel.
Politude, la pertinence des questions sur les sujets qui touchent l'intérêt de la nation.
Vous écoutez Politude sur le poste national de la CRTV. Nous sommes toujours en compagnie du professeur Gérard-Marie Messina. Professeur, parlons de ce qu'on peut appeler la méthode Biya dans la gestion du pouvoir. Pouvez-vous dire que le président a une empreinte particulière qu'il a imprimée dans sa façon de diriger au point d'être, 42 ans plus tard aujourd'hui, toujours très écouté dans le monde?
Le président a effectivement une empreinte particulière. La particularité de son empreinte, c'est qu'il appartient à toutes les époques. C'est un ancien, un très ancien, dont le profil initial correspond au héros traditionnel, suffisamment détaché, déconnecté du peuple, iconisé au point de tendre vers une divinité. Ça, c'est l'ancien modèle. Maintenant, la force du président, et qui justifie également son adaptabilité et sa durabilité, est-ce qu'il a compris, à un moment donné, qu'il courait le risque de devenir un produit politique périmé s'il n'avait pas suffisamment ouvert ses bras. C'est des données de l'histoire. Nous n'inventons rien. Vous savez, Constant, nous étions des jeunes élèves au lycée. Il y a eu une résistance farouche au multipartisme.
Venant de son propre parti.
Le président s'est ouvert et il a compris la nécessité justement de composer avec tous les acteurs politiques autour de lui. Voilà une preuve d'adaptabilité. Et à partir de ce moment-là, il a vu aussi les risques encourus en termes justement de besoin de conservatisme absolu ou de protection rigide du pouvoir entre ses mains. Il a composé avec toutes les parties prenantes. Et en composant avec toutes les parties prenantes, ça lui a rouvert les portes d'une plus grande stabilité. Parce que justement, en termes de lecture stratégique, la plupart des leaders ont compris que ce n'était pas nécessaire qu'ils évoluent en vase clos, mais qu'en établissant des partenariats avec le président qui s'est montré ouvert, parce que c'est lui qui les a appelés, et ils allaient plus gagner, et c'est effectivement ce qui s'est passé. Au-delà de ce partage du pouvoir au niveau des leaders, qui auraient pu être considérés par le passé certains comme ces alters égaux politiques, pas en termes de pouvoir, mais alter ego politique, on se rend également compte que, évoluant, il a reformaté son profil héroïque pour s'adapter aux exigences de la modernité et même de l'hypermodernité, tout en conservant justement les valeurs cardinales qui empêchent de sauter dans le vide. Parce qu'une sorte de populisme aujourd'hui peut vous amener à renoncer aux valeurs cardinales, ce qu'il n'a pas fait. Il a réussi à observer, à constater également même aussi la péremption d'un certain nombre de produits politiques en termes d'individus autour de lui, au point où il a trouvé bon de composer avec les produits qui émergent et dont le décalage entre la première et la deuxième génération, ou la troisième, est suffisamment grand. Mais le fait d'écouter, le fait de libéraliser le jeu politique contribue à la crédibilisation même du paysage politique camerounais. L'autre affaire aussi, c'est à saluer, c'est qu'en réalité, certains de ces acteurs, ou la plupart du moins, tiennent à garder leur étiquette politique originale, fondamentale, tout en animant l'espace de partenariat entre le parti au pouvoir, au proche du pouvoir, et ses autres acteurs. Vous les connaissez bien, ils participent aux meetings du RDPC.
C'est eux qu'on appelle les partis alliés.
Et donnent leur témoignage, mais ils gardent justement fondamentalement l'originalité de leur identité. Ça, c'est un cas. L'autre cas, c'est les gens qui restent justement dans le camp d'en face, mais qui reconnaissent la force des idées, l'originalité de la démarche et la sincérité du président pour ce qui est de la clarification et de la pacification du jeu politique. On a vu également la transformation par rapport à la prise en compte des technologies, de l'hypermodernité. Il peut varier les canaux de communication, il peut s'adapter, il peut, et ça lui donne justement la possibilité de continuer à être regardé comme un produit politique qui se renouvelle. Et c'est ça qui fait l'originalité justement de sa démarche, et c'est ce qui pourrait justifier également sa capacité à amortir psychologiquement les différents coups qu'il peut recevoir. Donc s'il était resté un héros du type extrêmement classique, il aurait fait très attention aux insultes politiques qu'il recevrait du côté d'en face, et même d'autres, j'allais dire, organisations. C'est-à-dire il y a des organisations, des structures qui sont initiatrices d'un certain nombre d'inputs politiques, mais qui ne sont pas nécessairement les partis politiques.
Le président Paul Biya, c'est un fin stratège politique.
C'est un fin stratège politique parce qu'il a gardé justement du modèle héroïque ancien cette capacité à ne pas répondre de façon primesautière. Il ne réagit pas tout de suite parce qu'il a reçu tel ou tel coup ou tel ou tel don. Il garde un silence qui est utile en matière de communication de crise. C'est-à-dire on ne répond pas tout de suite parce qu'on a reçu une balle ou il faut absolument clarifier une situation qu'on pourrait davantage complexifier en parlant. Mais quand la parole est utile, il se déploie. Et vous savez, stratégiquement, il est interdit de parler lorsqu'on est en colère. Parce que le résultat d'une parole de colère, ça débouche sur le regret.
Le président Paul Biya a aussi cette particularité qui ne s'affiche que très peu avec les militants lors des événements que sa propre formation politique organise. Ailleurs, on voit des chefs d'État arborer même la tenue du parti. C'est à dessein que le président Paul Biya agit ainsi?
C'est une démarche à saluer. Il est chef d'un parti, mais il est chef d'un État dont il tient plus à s'identifier au peuple tout entier qu'il a porté à la tête du pays qu'à son seul parti dont il est le chef. Je crois que c'est aussi l'une des originalités de sa démarche et qui continue à rassurer le peuple. Vous savez, le militant a une attitude quasi religieuse et c'est normal et ça se comprend. Le militant a la même structure psychologique que l'adepte d'une religion. Maintenant, est-ce que Dieu va se contenter uniquement de ce qui semble lui vouer le plus grand culte ou alors il va travailler au salut de l'humanité tout entière, des humains qu'il a créés? La réponse à cette question permettrait justement de comprendre la démarche qui veut que c'est le peuple tout entier qui lui a confié la direction du pays et ses réactions doivent être fonction justement de ce que les intérêts du Cameroun passent avant les intérêts de son propre parti.
Vous avez fait allusion au silence du président. Vous n'avez pas été surpris lorsque, à son retour, après un séjour officiel à l'étranger, il n'a rien dit après tout ce qui avait été écrit, dit sur son état de santé?
En termes de stratégie, la prévisibilité est une erreur fondamentale. C'est-à-dire que si tout le monde sait que non, lorsque Constant sort de Politude, il s'arrête à tel bar, il prend tel type de boisson alcoolisée, les gens commenceront à vous attendre. Là, vous allez prendre votre boisson alcoolisée qu'on connaît, on peut même la préparer. Hein. Et on sait aussi ce qui peut se passer. Lorsqu'on sait que c'est tel type de bière que Constant prend après Politude. Mais si on se rend compte que à la sortie de Politude, Constant peut prendre la direction d'un Kondongo au lieu d'aller en baladeux ou la direction des Foulan, je ne sais pas trop, et qui n'a pas une destination fixe. Ça va devenir difficile de lire les intentions et les réactions de Constant. Donc, ce silence est vraiment utile parce qu'il y a eu un débat, ou alors des débats. Réagir serait donner du grand amour à ce qui animait déjà le débat. Or, son retour met fin au débat. Pourquoi réagir encore? Son retour est une réaction. Son exposition au peuple est une réaction. Parce que, en termes de gestion de la communication, il y a la parole, il y a le langage verbal, il y a le langage non-verbal. La présence physique de quelqu'un qui a été annoncé mort, ce n'est pas à lui de vous dire que non, je ne suis pas un revenant. Ou bien non, ce qu'on disait là, ce n'est pas vrai. Bon, c'est à vous de maintenant continuer le débat pour vous dire soit c'est un revenant, soit... voilà. Et si c'est un revenant, ça veut dire qu'il a d'autres dons plus compliqués encore, qui lui donneraient beaucoup plus de crédit politique.
Politude sur le poste national de la CRTV.
Professeur Gérard-Marie Messina, nous allons vers la fin de notre entretien. 2025 est déjà dans toutes les bouches en ce moment au sein du RDPC avec l'élection présidentielle attendue. Le président Paul Biya a l'art de rester silencieux et de cultiver le secret. Est-ce que vous pensez qu'il va rester sourd aux nombreux appels à se présenter à nouveau comme candidat au scrutin de l'année prochaine?
Je crois que à une autre occasion, il avait lui-même cru devoir répondre à cette préoccupation et de la manière la plus détendue et de la manière la plus élégante. Il a souligné que le moment venu, il allait dire ce qu'il allait décider lui-même. Ce que moi je peux dire, c'est que la lecture de l'expert me commande de dire qu'il a un héritage politique indéniable. C'est une question d'histoire et c'est l'histoire du Cameroun. Et je crois qu'il réfléchit justement à la consolidation de cet héritage politique. Et 2025, c'est intéressant et c'est évident. Et le plus intéressant justement dans l'affaire, c'est que l'élégance politique dont il fait preuve fait que les règles du jeu sont suffisamment claires. il a le RDPC, c'est le parti le mieux assis, c'est le parti le plus fort, et donc qui a une organisation interne et qui sait justement comment il fonctionne. Et les réponses sont aussi fonction justement et du déploiement du peuple et du déploiement de l'organisation à laquelle il appartient. Et donc, naturellement, si nous tenons compte du bilan dont on parlait tout à l'heure, de la célébration du 42e anniversaire, la convergence établit que les uns et les autres sollicitent sa conduite. Donc, forcément, il donnera la réponse et au peuple et à son propre parti, sur la base, justement, des moyens et des outils dont il dispose.
Pas d'ambiguïté au RDPC qui a son candidat naturel ainsi que les partis politiques alliés au RDPC. Tous sont manifestement prêts à aller à la bataille électorale. Est-ce qu'on peut dire autant de l'opposition camerounaise, professeur Messina? Est-ce que vous sentez l'opposition camerounaise prête à déloger le locataire de Toudi?
La difficulté à percevoir au niveau du déploiement politique en termes d'organisation stratégique vers un intérêt commun, qu'on peut observer au niveau de l'opposition, c'est cette démarche traditionnelle qui consiste à être à la remorque de l'actualité du RDPC. Et c'est un peu embêtant. Pourtant, il y a des figures pertinentes dont on voit le déploiement, même au niveau des différentes chambres, la chambre basse surtout. On voit également la cohérence d'un discours et qui peut aussi entraîner une fédération, une mobilisation autour. Mais la grande question reste le taux d'égoïsme au niveau de l'opposition, qui n'a pas changé. Au contraire, il s'améliore systématiquement. Et au-delà de la figure, d'une figure fédératrice, l'opposition camerounaise a péché énormément en se focalisant essentiellement sur l'élection présidentielle qui vient en bout de chaîne. Je veux parler d'un certain nombre de partis politiques dont l'implication en amont, au niveau des différentes autres échéances, aurait donné une figure différente tout au long de ce mandat. Même la réponse du peuple ne peut briller que par une sorte de timidité, une sorte même de dégoût et une indifférence qui ferait que au-delà justement de ceux qui se sont mobilisés et qu'on peut voir, ce serait difficile de penser qu'on aille en réalité vers une certaine cohérence. Et donc, tant que les figures de l'opposition ne comprendront pas la nécessité de travailler dans le sens de la conception d'une politique d'imagination qui aille au-delà de la figure d'un individu, ça va être extrêmement difficile. L'avantage du RDPC, c'est un avantage historique, c'est un avantage politique, c'est un avantage, j'allais dire même géographique. Donc les autres ont besoin de se déployer, peut-être pas en termes de succès immédiat, mais il y a des figures émergentes qui présentent un discours avec un contenu pertinent, qui sont aussi justement ces figures-là de manière permanente sur le terrain de l'action, même avec des moyens suffisamment limités et timides. Moi, je loue justement cette démarche parce que je vois que ces gens auront contribué à la crédibilisation de l'action politique camerounaise de manière générale en termes de diversification justement du paysage politique.
Quand vous dites que le degré d'égoïsme s'est amélioré au sein de l'opposition camerounaise, comment est-ce que ce degré d'égoïsme se voit concrètement pour que les auditeurs puissent apprécier ce que l'opposition camerounaise représente aujourd'hui?
De manière claire, si vous êtes supposé aller aux élections municipales, vous n'y allez pas. Si vous êtes supposé aller aux élections législatives, vous n'y allez pas. Mais c'est un problème. Et en bout de chaîne, vous venez à la présidentielle, on n'élit pas cinq présidents, mais on peut élire une flopée de maires et de conseillers municipaux et de députés, de sénateurs. On peut en élire. Donc justement, c'est cette traçabilité de la fonction organisationnelle de l'action politique des partis d'opposition qui manque. Et puis, il y a quelque chose à vous reprocher, à vous des médias, Constance. Aujourd'hui, le débat public est confisqué par de gens qui estiment peut-être que les seuls espaces, justement, pour négocier leur visibilité, c'est les plateaux de télévision et les studios de radio. C'est-à-dire qu'il y a des partis qui n'existent que pour prendre part au débat. Et vous, vous entrez dans la logique d'une sorte d'équilibrisme technique, médiatique, complètement impertinent. C'est-à-dire qu'on ne viendra pas sur le plateau dire quel déploiement on a eu sur le terrain, mais on viendra commenter sur telle ou telle affaire en rapport avec le parti au pouvoir. Et on contribue justement à le gonfler. On contribue justement à le visibiliser.
Dernière question, 42 ans plus tard, le renouveau a toujours de beaux jours devant lui.
Et il y a que le renouveau en lui-même devrait avoir de beaux jours. Parce que le renouveau, je l'ai relevé tout à l'heure, il faut qu'on se comprenne très bien, cesse d'être le bien, le patrimoine d'un parti, mais plutôt la valeur cardinale d'un pays. Parce qu'en fait, c'est ce que j'appelle les politiques d'imagination. Quand le peuple adhère, il achète le renouveau. Il cesse d'être le bien du président Paul Biya, il cesse d'être le bien du RDPC. Et donc, si le renouveau est un espace de consensus politique, un espace de consensus économique, social et tout ce que vous imaginez, il devrait pouvoir avoir de beaux jours. Le renouveau ne va pas être effacé parce qu'un parti politique se serait essoufflé à main. Non, pas du tout. Et il faut le dire, le renouveau, ce n'est pas le RDP, c'est la vision d'un homme qui a porté, qui porte un État et qui porte un parti et qui vend quelque chose, un espoir au peuple. C'est comme ça qu'il faut concevoir cette affaire pour que ça marche.
Et l'homme du renouveau a toujours de beaux jours devant lui.
L'homme du renouveau nous a rassurés. Il a rassuré le peuple. Et lorsqu'on a travaillé à la consolidation de la paix, à la construction d'un pays, à la préservation d'un certain nombre de valeurs et à la protection même des ressources naturelles, on entre dans le registre des icônes. On entre dans le registre des symboles. Et je reste dans le paradigme justement de la mythologie pour vous dire justement que le héros, lorsqu'il a accompli un certain nombre de choses, ne finit pas. Il ne disparaît pas. Il reste présent dans la mémoire du peuple par rapport au passé, par rapport au présent et par rapport au futur. Voilà comment se construisent les nations. La France cherche toujours son De Gaulle. Donc, les autres, c'est des copies de De Gaulle qu'on cherche. Mais De Gaulle, il ne vit plus physiquement. Mais la conception de toute politique en France se rapproche du modèle qu'il a élaboré et qui a permis que la France aujourd'hui reste dans les big states, dans les grands États, et qui ont les big tech, les grandes technologies, et qui ont les big citizens. Parce que quand vous avez cette nationalité-là, il y a une prétention de supériorité de force. Et c'est tout à fait normal, parce qu'il y a un ordre de préséance entre les États. Et le travail, justement, de l'homme du renouveau, c'est de faire comme il a négocié, que le Cameroun garde un rang très, très enviable dans l'ordre de préséance internationale.
Professeur Gérard-Marie Messina, sémiopolitiste, enseignant à l'Université de Yaoundé 1 et directeur exécutif du laboratoire de sémiologie politique, merci pour vos éclairages dans Politude.
C'est moi qui vous remercie.
C'est la fin de cette édition de Politude réalisée par Daniel Sopo, prise de son René Nan, présentation Constanze, coordination Georges Kellon, Valérie Dikosumaru, directeur des rédactions radio, supervision Madeleine Sopi-Koto, directeur central radio. Mesdames, messieurs, merci d'avoir écouté. Merci de rester sur le poste national de la CRTV. À samedi prochain.